Il est 19h, bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par les groupes angevins d'Amnesty International sur Radio G 101.5 FM, un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette demi-heure consacrée aux droits humains. Pour animer cette émission de presque la fin d'année, Philippe et Sophie, bonsoir à vous deux.
Ravi de vous retrouver, bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Dans cette émission, nous allons recevoir Michel de l'association Ourika Solidaire. Et puis ensuite, on passera en revue l'actualité des droits humains. On terminera bien sûr par l'agenda culturel et militant. Mais avant tout, Sophie, dans ton éditorial, tu vas nous parler de la circulaire Darmanin.
Oui, en effet, le 17 novembre, le ministre de l'Intérieur demande au préfet de durcir l'application des obligations de quitter le territoire français, appelé plus communément OQTF. Envers l'ensemble des étrangers en situation irrégulière et non plus seulement les étrangers délinquants. Depuis 2020, 3500 étrangers constituant une menace pour l'ordre public ont été expulsés selon le ministre. Il appelle les préfets à délivrer ces mesures à l'issue d'une interpellation ou d'un refus de titre de séjour et d'exercer une véritable police du séjour.
Mais cela ne suffit pas. Alors de quelle autre mesure parle-t-on ?
Il demande l'inscription systématique des personnes sous OQTF au fichier des personnes recherchées, le fameux FPR. Ceci afin de comptabiliser tous les étrangers sous OQTF devant quitter le territoire national. Il y est demandé également que les étrangers sous OQTF soient systématiquement assignés à résidence à une adresse fiabilisée et non de complaisance lorsqu'ils ne peuvent pas être placés en centre de rétention administrative. Il rappelle aussi sa volonté de rendre impossible la vie des personnes sous OQTF en s'assurant que ces dernières voient leurs droits sociaux suspendus. Le ministre dit aussi vouloir délivrer plus rapidement les OQTF, simplifier les procédures, notamment en passant de 12 à 4 catégories de recours.
Mais alors qu'en est-il du projet de loi Droit, Asile et Immigration ?
Il doit être proposé en février 2023, mais il soulève de vives réactions, entre autres à la Coordination pour le droit d'asile, qui réunit une vingtaine d'associations nationales. Celle-ci a adressé à la secrétaire d'État 15 conditions minimales pour que le droit d'asile soit un droit réel. Les mesures annoncées récemment sont en effet loin d'y répondre. Pire, elles conduisent au détricotage du système d'asile français. Créé il y a 70 ans sous l'apparence de mesures de simplification et de décentralisation. Il est question de placer les services de l'Office français de protection des réfugiés apatrides, l'OFPRA, sous l'autorité des préfets. Son indépendance lors de l'instruction des demandes d'asile, garantie par la loi, serait ainsi remise en cause.
Mais alors quel est le projet en cas de rejet de l'OFPRA ?
Actuellement, un recours est possible auprès de la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA. Pour la plupart des situations, la personne est jugée par deux juges et une autre personne qualifiée nommée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR. Or, le projet de réforme propose la généralisation d'un juge unique, ainsi que la décentralisation de la Cour. Il veut généraliser la vidéo-audience, ce qui n'augure rien de bon pour les personnes qui demandent l'asile. De plus, il est question de lancer une OQTF systématique dès la décision de rejet de l'OFPRA et avant que la personne dépose un recours. Une absurdité qui ajouterait de la complexité à la procédure. Cela remet en cause le principe constitutionnel de l'admission au séjour des demandeurs d'asile jusqu'à la décision définitive, notamment en leur restreignant l'accès à l'hébergement d'urgence. Monsieur Darmanin remet ainsi en cause le principe de l'inconditionnalité de l'accueil dans ces lieux.
Et pour le droit au travail alors, pour ces demandeurs d'asile ?
Ce droit ne serait envisagé que pour certaines nationalités ayant un fort taux d'accord ou pour les demandes d'asile dont le traitement dure plus de 6 mois à l'OFPRA, ce qui est devenu rare. La France ne s'est toujours pas mise en conformité avec les objectifs du droit européen pour l'accès au marché du travail des personnes demandant l'asile, notamment celles dublinées. À l'heure où s'expriment ouvertement des idées xénophobes et racistes, ce projet de loi ne répond pas aux enjeux auxquels le dispositif de protection et d'accueil des demandeurs d'asile est confronté. La Coordination française pour le droit d'asile demande son retrait.
Merci Sophie. Et vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM. Et puis, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Michel. Pei, c'est ça, qui est le président de l'association Ourika Solidaire. Bonjour Michel, merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Oui, bonjour, merci de m'accueillir.
Merci.
Bonsoir Michel. Est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord votre association et notamment que signifie ce mot Ourika ?
Ourika, c'est le nom de l'oued qui passe dans le village de Tnin Ourika.
D'accord.
C'est cet oued qui descend du Louikaï Medem, la pointe de l'Atlas d'accord. À côté. Quoi.
Dans quel pays ?
Au Maroc.
Au Maroc.
Et il est situé du côté de Marrakech ?
Oui, 25-30 kilomètres au sud de Marrakech.
Au sud de Marrakech, d'accord. Et pourquoi solidaire ? Je pense que vous menez donc des actions de solidarité. Et pourquoi ?
Ouais, c'est pour des enfants qui sont en situation de handicap dans cette vallée de l'Ourika. Parce qu'on est au pied de la montagne et y a beaucoup de douars qui sont... où les gens descendent sur cette ville qui s'appelle Tnin Ourika.
D'accord.
Et les enfants de cette montagne, en fait, par exemple, il y a beaucoup d'enfants sourds parce qu'il y a le paradoxe de la chaleur dans la journée et de la fraîcheur et du froid même le soir.
D'accord.
Donc des otites mal soignées.
Ah oui.
Donc une forte propension de sourds. Puis les autres handicaps qu'on connaît tous, trisomie 21, les gens... troubles autistiques, voilà.
Ah oui, d'accord. Ouais. Et c'est seulement les enfants dont vous vous occupez ou...
Oui, les jeunes adultes un peu aussi, puisqu'on essaie, le projet c'est de les insérer dans la vie sociale et professionnelle.
Mm-hmm.
Donc quand on a des jeunes qui arrivent à 18 ans, on essaie de trouver des solutions pour eux, des solutions professionnelles, quoi.
Mm-hmm.
Mais comment
si c'est possible.
Bah oui, mais comment a été fondée l'association ? Un jour, quelqu'un a été dans cette région et s'est aperçu de la misère, c'est
oui,
ça ?
C'est ça.
Quelqu'un
c'est
du coin ?
Quelqu'un d'Angers qui a eu lui-même un handicap et qui a été établir une maison là-bas. Et donc, en lien avec lui et puis l'instituteur de ce village-là, où on s'est rendu compte qu'il avait beaucoup, beaucoup de difficultés avec... des enfants qui avaient toutes sortes de handicaps et il avait très, très peu de moyens. Donc on l'a aidé à avoir plus de moyens et puis de là est né le projet associatif et qui est autonome maintenant. L'association a ses propres locaux qu'elle loue. Voilà.
Ça fait combien de temps alors ?
Oui.
Ça fait 10 ans, hein. On est en 2022, on a commencé en 2012. Ouais.
Et donc, ces enfants sont inclus dans une école dite ordinaire ou c'est une autre salle de classe ?
Non, c'est vraiment inclus dans la... D'ailleurs, au Maroc, il y a une politique d'inclusion scolaire comme chez nous en France. Mais ça vient seulement de démarrer. Mais comment dire, c'est dans l'école même, hein. C'est une classe dans l'école. Une ULIS ou CLIS, comme on disait autrefois ici en France.
Et qu'on dit toujours ? Et il y a beaucoup d'enfants alors dans...
Oui, enfin, dans notre réseau associatif, il y a une cinquantaine d'enfants en fait. Mais je compte dans ces 50 les jeunes adultes qui sont peut-être au nombre de 10 ou 15, qui voisinent entre les 18 et les 22 ans et qui ont connu l'association depuis qu'ils sont enfants et qui... C'est ça qui est remarquable, c'est un esprit de communauté en fait.
D'accord.
À la fois au niveau des enfants comme au niveau des parents, parce qu'en fait... un enfant, quand on a un enfant qui a un handicap, on se replie sur soi. Et là, justement, cette association permet aux parents de découvrir que d'autres parents ont les mêmes problèmes qu'eux.
D'accord. Et mais vous intervenez au niveau de l'enseignement ou bien des activités extrascolaires ?
Non, ce qu'il faut expliquer, c'est que nous, Ourika Solidaire, on a créé une association partenaire qui s'appelle Ourika Tadamoun. Et c'est eux qui font l'action. Nous, Ourika Solidaire, on est simplement pourvoyeurs de fonds et puis aide humanitaire, aide sociale, voilà. Conseil, relations. Mais c'est eux qui font l'action. Et l'action qu'ils font, c'est à la fois dans l'école, il y a un animateur qui aide l'instituteur.
Oui. D'accord.
Et puis, dans les activités périscolaires, au siège de l'association, où sont développées des pratiques pré-professionnelles comme la pâtisserie ou le jardinage.
D'accord.
Les jeunes cultivent des plantes aromatiques que nous vendons ici en France. Par exemple, tout à l'heure, avant de venir dans votre radio, j'étais au magasin au Marrakech Souk, qui vendent les tisanes de l'Ourika des jeunes.
Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui. Et vous financez donc un salarié ou plusieurs
On finance cette école un salarié et les activités périscolaires et la location du modem, enfin voilà.
D'accord.
En fait, on a une sortie d'argent mensuelle de à peu près 800 euros, qui donc multiplié par 10 mois, 11 mois, puisqu'il n'y a qu'un mois de vacances vraiment de l'association.
Ah oui.
Vous voyez, ça fait 9000 euros à peu près à trouver chaque année. Quoi.
D'accord. Et vous avez établi des liens très forts, je suppose, donc avec la population dans ce village.
Oui, les liens très forts, c'est des liens avec les amis militants de l'association.
D'accord.
Il y a la présidence de l'association Ouikatadamoun, il y a un ami qui s'appelle Lassen Shaili, qui est instituteur de français dans l'école.
D'accord.
Et qui est accompagné de d'autres enseignants et des parents d'enfants. C'est un conseil d'administration comme on en connaît ici. Quoi, en fait.
Ah oui, d'accord.
Et en France, vous êtes combien de bénévoles alors ?
Une vingtaine.
Ouais, une belle équipe.
On a 35 à 40 adhérents, mais les bénévoles actifs, une vingtaine.
D'accord.
Et donc ces fonds alors, vous les récoltez comment ?
Alors on les récolte par en gros deux moyens. Des spectacles qu'on organise avec des artistes qui veulent bien laisser leur cachet. Ou tout partie de leur cachet.
D'accord.
Et les compagnies de théâtre aussi, compagnie Jugade et la compagnie Les Herculéens. D'accord. Et ça, c'est première source de revenus, les spectacles solidaires, ou du chant même. Hein. On a eu le 4 décembre, là, les Naïades.
Oui, j'étais présente, c'était magnifique, merci beaucoup.
Et donc, on organise ça et... Deuxième source de revenus, les dons. On est reconnu d'intérêt général. Donc
c'est déductible.
C'est déductible. Voilà. Et on arrive à peu près, en général, à 50-50, c'est-à-dire 4000 euros par les dons et 5000 euros par les spectacles.
Ah oui,
et je ne sais pas comment les appeler, là, le département, la ville, les villes.
On a eu une aide de la ville des Ponts-de-Cé.
Ah oui, vous êtes basé au Ponts-de-Cé.
On est basé au Ponts-de-Cé. Ouais. On a eu une aide exceptionnelle de 1000 euros là, pour l'équipement de la cuisine et des toilettes là-bas, dans la maison qui est louée par l'association Ouikatadamoun.
D'accord.
Et autrement, on a la subvention, comme toutes les associations ont, sur cette ville des Ponts-de-Cé. Quoi.
D'accord. Et quels sont donc vos projets pour l'année prochaine là ? Vous venez de parler de l'équipement de l'école.
Mais... Là, en ce moment, nos projets, c'est d'avoir, de réussir le financement participatif qu'on a lancé. Là. Mm-hmm. On est à 15 jours avant la clôture de ce financement participatif.
D'accord.
Sur notre site Ourika Solidaire, dans un seul mot, .canalblog.com. Vous pouvez avoir tous les renseignements sur ce financement participatif qui se fait par la plateforme Hello Asso.
Ah oui, d'accord.
Si vous faites Hello Asso et Ourika Solidaire, vous trouvez ce financement participatif.
Ah oui, d'accord.
Et donc, c'est vraiment important pour nous d'arriver à ça. Nos objectifs sont de réussir les spectacles qui sont déjà programmés. Ouais. Il y a donc ces compagnies théâtre, et puis il y a, pour le second semestre, une action sur la ville de Muret-Rigné qu'on a pensé. Quoi.
D'accord.
Et puis il y a la vente donc de ces fameuses tisanes. Alors
les tisanes, c'est pas grand chose. En fait, on est plus dans le symbolique.
Ouais.
Pour vous dire, en fait, l'argent des tisanes sert à faire un voyage au Maroc des familles qui s'en vont vers la mer parce que on est à 200-250 km de la mer, elles n'ont jamais vu la mer. Donc ils vont soit à Agadir, soit à Essaouira.
Tous les ans, vous organisez un voyage.
Sauf période Covid, quoi. Parce que là, il n'y a pas eu de possibilité. Et c'est Ouikatadamoun qui organise. Nous, on renvoie l'argent des tisanes.
Qui ont
été vendus.
Ah oui, ils sont totalement autonomes dans leur choix.
Deux associations autonomes.
Oui, oui.
Et on y a tenu vraiment pour l'indépendance, la responsabilité. En fait. Donc, c'est du partenariat. Vraiment du partenariat. On dit des associations sœurs, on dit.
Et vous travaillez avec d'autres associations ?
On travaille avec des partenaires comme les chanteurs, par exemple, d'autres associations localement, on travaille avec... On a fait, par exemple, une opération qui s'appelle Tandem Solidaire avec l'école André Malraux, Ponts-de-Cé, où on va au lycée de Pouillé aussi, on a fait un forum là, au mois de novembre.
Mmh. Ok. D'accord. Et alors, si on veut vous soutenir, comment est-ce qu'on peut vous contacter ?
Ben, nous contacter, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, le blog, déjà, où, là, laisser un message en commentaire.
Le site, hein, Ourika Solidaire, Angers, ça marche ?
Ourika Solidaire, dans un seul mot, canalblog.com. Ouais, ça, c'est laisser un commentaire et on vous répondra. Mmh. Ou alors, notre adresse mail... ourika.solidaire@gmail.com.
Oui, facile. Voilà. D'accord. Ouais, très bien.
Merci beaucoup pour cette superbe action de Noël. Ouais, voilà, bravo. Acheter des tisanes et donner à Ourika Solidaire. Voilà.
Et on pensera au mois de mars aussi pour venir à différents spectacles.
Voilà. Oui. Et ben, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Et c'est moi qui vous remercie. Vraiment, merci beaucoup.
Et bon courage pour la suite.
Oui, oui.
Merci. On se retrouve après une pause musicale. Wow. Voilà, vous venez d'écouter, Laisse le peuple s'exprimer du groupe Raga Sonic, c'est une des références du reggae français. J'espère que vous avez apprécié. On est toujours sur Droit Devant, sur Radio G101.5 FM, et c'est maintenant l'heure des actualités des droits humains.
Peut-on imaginer une exilée iranienne menacée d'expulsion et enfermée en rétention en France ? C'est ce qu'a vécu Nadia, âgée de 41 ans, lorsqu'elle a été interpellée en situation irrégulière et placée au centre de rétention administrative de Toulouse le 5 novembre dernier. Après s'être vue délivrer une obligation de quitter le territoire français, dite « sans délai », selon les équipes de la CIMADE, cet exilé avait pourtant participé à la révolution qui secoue l'Iran depuis la mort de la jeune Mahsa Amini et avait fui la répression féroce du régime. Après 2 jours en rétention, c'est finalement le juge des libertés et de la détention qui a choisi de la libérer. Le tribunal administratif de Toulouse doit encore se prononcer sur la légalité de l'OQTF dans les prochaines semaines.
Ouais, la pauvre. Hein. La population ukrainienne, eh bien, il faut savoir que c'est l'une des plus âgées au monde, un quart à plus de 60 ans. C'est une réalité démographique qui n'est pas anecdotique. Dans un nouveau rapport, nous documentons l'impact disproportionné que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a sur les personnes âgées. En effet, depuis le début de l'invasion russe, ces personnes comptent parmi les premières victimes du conflit, souvent dans l'incapacité de partir, bien sûr, l'isolement, le handicap, le manque de moyens, la dépendance. Elles se retrouvent piégées dans des conditions de vie délétères et exposées au bombardement. Eh bien, nous appelons la communauté internationale à se mobiliser pour leur apporter tout notre soutien.
6 mois après la mort de 37 personnes et la disparition de 77 autres à la frontière de l'enclave espagnole de Melilla, les autorités espagnoles et marocaines réfutent toute responsabilité dans ce carnage. La lenteur et les carences de l'enquête sentent la dissimulation. Environ 400 personnes se sont retrouvées bloquées dans une petite zone entourée de murs, acculées par les forces marocaines. La police espagnole leur a alors aspergé les yeux, pendant que la police marocaine leur jetait des pierres à la tête. Elles ont été privées de secours médicaux rapides et adaptés. Aucun des deux gouvernements n'a diffusé les images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance.
L'artiste russe Lulia Tchevskova risquait 6 ans de prison pour des dessins publiés sur les réseaux sociaux représentant des corps de femmes et des vulves. Grâce à une large mobilisation, l'artiste russe de 29 ans a été acquitté. La décision du tribunal est un exemple rare de justice dans la Russie actuelle. En effet, les autorités continuent d'étouffer les voix dissidentes, de museler les médias et de harceler la communauté LGBTI. Le 24 novembre, les députés ont approuvé une loi durcissant l'interdiction de la propagande LGBTI+.
Dans plusieurs villes chinoises, des manifestants se sont réunis, pour crier leur colère et leur lassitude face aux mesures sanitaires qui duraient depuis quasi 3 ans. On a même vu des protestataires crier « Xi Jinping, démission !» et s'en prendre au Parti communiste. Inquiet de la montée du mécontentement et de la chute de l'économie, le régime a fait un virage à 180 degrés. Et après avoir longtemps érigé le variant Omicron comme l'ennemi public numéro 1, il se veut désormais positif et rassurant.
Les incendies ont ravagé 775 000 hectares au Brésil en novembre, soit une hausse de 89% par rapport au même mois l'an dernier, affirme un rapport établi par plusieurs ONG. 81% de ces terres brûlées se trouvent en Amazonie. Ces données confirment la hausse de la destruction environnementale au cours des derniers mois de la présidence Bolsonaro. Lula, qui prendra ses fonctions en janvier, a promis de lutter pour parvenir à une déforestation zéro au Brésil.
J'espère qu'il tiendra sa promesse.
Oui. Un consortium de journaux est à l'origine des révélations du Qatargate. Il y a 5 mois, le renseignement belge, aidé par d'autres services européens, apprend l'existence de ce réseau travaillant pour le compte du Maroc et du Qatar. Il visait à mener une activité d'ingérence au siège de l'UE et au poste clé des institutions européennes. Il s'agit d'un réseau de corruption principalement italien où figure la vice-présidente grecque socialiste du Parlement. Sous le coup d'une procédure de flagrant délit, celle-ci a été écrouée. Raison de plus pour ne pas s'afficher aux côtés d'un émirat quasi esclavagiste et écolo délinquant.
Difficile de ne pas parler foot et difficile de résister à l'euphorie collective. En effet, quel formidable exploit pour le Maroc d'être la première équipe arabe et africaine à arriver en demi-finale de la Coupe du Monde. Mais on ne peut quand même pas oublier la répression qui s'est abattue sur les révoltés du Rif, les migrants subsahariens repoussés aux confins du désert. Les femmes restent largement discriminées, les homosexuels incriminés et les autres minorités marginalisées. Notre opération Les 10 jours pour signer a mis en lumière la situation de Nasser Zafi, condamné à 20 ans de prison pour avoir osé demander plus de justice sociale.
Le 3 décembre, le procureur général iranien a annoncé la dissolution de la police des mœurs, l'unité qui a arrêté Mahsa Amini. Attention, ceci n'est qu'un leurre destiné à tromper l'opinion. La violence contre les femmes et les jeunes filles est et restera encore bien présente. Une violence inscrite dans les lois du pays. Par ailleurs, deux jeunes manifestants de 23 ans ont été pendus les 8 et 12 décembre. Ils s'appelaient Mohsen Chekani et Majid Reza Ranavar. Ce dernier sur une place publique pendu dans sa ville de Mashhad. Au moins 11 autres personnes ont été condamnées à la peine capitale. Une trentaine, dont des mineurs, risquent le même sort. Malgré la brutalité du régime, la colère de la population reste intacte et la répression ne fera que l'accentuer.
Quel courage,
hein. Oui. Ouais.
L'avocat franco-palestinien Salah Amouri, expulsé dimanche par Israël, est arrivé en France. Le gouvernement français a condamné l'expulsion de M. Amouri, la jugeant contraire au droit. Celui-ci avait été condamné en mars à 3 mois de détention administrative, une mesure renouvelable permettant à Israël d'incarcérer des suspects sans accusation formelle. Ses avocats remettent en cause son ordre d'expulsion ainsi que la révocation de son statut de résident de Jérusalem-Est.
Revenons maintenant sur deux terribles conflits oubliés des médias et de la communauté internationale. D'abord au Yémen, bientôt 8 ans de guerre, des bombardements ciblent des écoles, des marchés. 80 à 90% des victimes sont des civils, des femmes et des enfants, souvent ciblés par des snipers. Eh bien, la France continue de vendre ses armes à l'Arabie Saoudite, pays engagé dans la guerre au Yémen. Et puis, il y a aussi l'Éthiopie, où se déroule une guerre à huis clos, une guerre sans merci à laquelle se livrent depuis 2 ans les autorités d'Addis Abeba et les rebelles tigréens, une ethnie minoritaire. La famine et la sécheresse menacent 20 millions d'êtres humains dans toute cette partie de l'Afrique. Un accord de paix, ou plutôt un simple cessez-le-feu, a certes été signé à Pretoria le 12 novembre dernier, mais ces accords semblent si fragiles, faute d'accès aux régions les plus touchées.
Et pour finir les actualités de 2022, parlons climat avec la COP 15 sur la biodiversité. Après 4 ans de discussion, plus de 190 États ont finalement adopté, ce lundi 19 décembre au Canada, un accord historique pour essayer de s'attaquer au gigantesque défi de l'effondrement du vivant. Protéger 30% de la planète, restaurer 30% des écosystèmes, réduire de moitié les risques liés aux pesticides, doubler les financements globaux en faveur de la protection de la nature, des dirigeants du monde entier se sont engagés à prendre des mesures urgentes pour arrêter et inverser la perte de biodiversité d'ici à la fin de la décennie.
On y croit. Nous sommes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM. C'est bientôt la fin de notre émission et c'est le temps de notre agenda militant et culturel. Un agenda très calme pour ce changement d'année.
Le mardi 27 décembre, l'association Spodiva propose un repas de Noël franco-ukrainien avec spectacle, chant et danse. C'est à 13h à la salle Jacques Brel de Montreuil-Juigné. Les profits iront aux déplacés ukrainiens, en particulier aux enfants qui recevront des cadeaux.
Lundi 9 janvier à 20h au 400 coups, présentation de Tantoura, un documentaire d'Alan Schwartz. Ce cinéaste israélien revient sur un massacre de Palestiniens par l'armée israélienne en mai 48. Et ce faisant, il remet en question le mythe fondateur de la création d'Israël et dénonce l'incapacité de sa société à accepter son sombre passé. Le débat qui suivra se fera en présence de l'association France-Palestine Solidarité.
Le jeudi 12 janvier à 20h au Centre Jean Villard, projection du film longtemps censuré de Chris Marker et Alain René, Les statues meurent aussi, suivi d'un débat avec Philippe Baquet sur le pillage des objets d'art en Afrique. Entrée libre.
Eh bien, je crois qu'il est déjà presque 19h30. C'est le temps de conclure cette émission et de remercier Michel pour sa venue. Très chouette association, Rica Solidaire. D'ici là, n'hésitez pas à réécouter l'émission en replay sur le site www.radio-g.fr. Et vous pouvez bien sûr également nous rendre visite sur Facebook à amnesty.angers. Allez passer de belles fêtes de fin d'année joyeuses et solidaires.
Passez de très bonnes fêtes.
À bientôt.
Au revoir.